Bien écoutez, c'est un chiffre du jour qui dit la fracture de la société américaine ou de l'État américain. 26 États, notre chiffre du jour, sur 50 États qui devraient profiter de l'arrêt de la Cour suprême pour légiférer contre l'avortement ou pour restreindre l'avortement. Question pour vous, Laurence Nardon. Ça montre un pays divisé pratiquement à 50-50 en deux parts égales sur cette question de l'IVG, mais pas seulement.
Oui, alors sur l'IVG, il faut effectivement bien noter que ce n'est pas une interdiction fédérale qui a été décidée par la Cour.
Aux États.
Exactement. Et donc, ça laisse les États décider avec la moitié qui vont interdire l'avortement, un peu comme dans La Lettre écarlate, La Servante écarlate.
Qui est un livre et une série, une dystopie.
Voilà, pardon. Et les autres États progressifs conservent pour l'instant le droit à l'avortement. Ils vont peut-être même l'élargir pour accueillir les femmes qui n'en auront plus dans leurs propres États. Mais vous avez raison de parler de fracture, parce qu'on a aujourd'hui aux États-Unis une droite réactionnaire, la droite chrétienne, qui tient la Cour suprême, on l'a vu. Et puis aussi, de l'autre côté, il faut dire qu'il y a une frange très progressiste, peut-être même ultra-progressiste, qui tient l'université, qui tient les campus et qui professe là aussi des opinions extrêmes. Alors, ils n'ont pas de pouvoir, parce qu'ils ne tiennent pas la Cour suprême, ça, c'est sûr. Mais on les entend dans les journaux.
Rana Levy, vous parlez d'une démocratie américaine qui est en état de pré-guerre civile. C'est-à-dire que ce sont deux camps politiques face à face, illustrés par ce chiffre de 26 États d'un côté, 24 de l'autre, mais qui n'ont plus rien en commun.
Qui n'ont plus rien en commun et qui ont même l'impression de vivre dans un pays différent. Aux États-Unis, aujourd'hui, la fracture est telle que même au Congrès, même au plan de politique, le dialogue est quasiment inexistant entre les deux parties. Le bipartisme, qui était la marque de fabrique de la démocratie américaine, est mort depuis quelque temps.
C'est-à-dire qu'un président, pour faire passer ses lois, essayait d'avoir des voix du camp d'en face.
Il y a toujours des négociations au sein du Congrès entre démocrates et républicains sur certaines lois sur lesquelles ils sont d'accord et qu'ils arrivent à promouvoir ensemble. Mais ce dialogue est fini. Les partis ne se parlent pas. Ils sont dans une logique conflictuelle qui les éloigne et les pousse aux extrêmes. Et ils sont tributaires de plus en plus de leurs électeurs qui, eux, ne se voient plus des deux côtés de la barrière politique.
Tamara Boussac, vous pouvez nous en dire plus sur le poids de cette droite chrétienne blanche ou droite évangélique qui semble à l'œuvre depuis peut-être même plus longtemps qu'on ne le pense ou qu'on ne l'avait imaginé, depuis des décennies, et qui manipulerait ou qui aurait vraiment rendu le Parti républicain très absolutiste et qui manipulerait la Cour suprême ?
Oui, en fait, il faut savoir que jusque dans les années 70, l'opposition à l'avortement était surtout portée par une forme de minorité catholique, notamment. Et c'est vraiment l'irruption de la droite chrétienne et la droite évangélique dans le débat, dans la vie politique américaine au cours des années 70, qui a vraiment refaçonné le Parti républicain à ses couleurs, et notamment sur la question de l'avortement, qui est devenu un enjeu très important à partir de la fin des années 70. Et justement, avec un militantisme, un activisme qui a vraiment porté sur les questions juridiques, et c'est pas voilà, c'est pas un hasard si Donald Trump a fait le choix de nommer trois juges donc qui avaient publiquement dit qu'ils étaient hostiles à l'avortement quand il en a eu l'occasion pendant son mandat, alors même que voilà, pendant le processus de confirmation de ces trois juges
devant
de la Cour suprême, devant
le
Sénat,
ils ont dit beaucoup, on ne touchera pas à l'arrêt Roe versus Wade.
Absolument, oui. En vertu aussi, non seulement de la neutralité, mais aussi en vertu du principe de stabilité qui est inhérent au fonctionnement de la Cour suprême et de sa légitimité aussi.
Donc, c'est-à-dire que jusque-là, pardonnez-moi, la Cour suprême, pour que les gens comprennent bien, la Cour suprême répugnait à revenir sur des lois, sur des jurisprudences établies. C'est très rare qu'on revienne sur une loi qui était en place depuis 50 ans.
Le revirement de jurisprudence est effectivement assez rare. Ça arrive, bien sûr. Alors, il y a des exemples qui viennent en tête sur les questions d'égalité raciale, notamment sur la constitutionnalité de la ségrégation raciale aux États-Unis. À la fin du 19e siècle, la Cour suprême avait jugé que la ségrégation était constitutionnelle. En 1954, elle revient sur cette jurisprudence pour interdire, pour juger anticonstitutionnelle la ségrégation raciale. Là, effectivement, c'était dans une perspective de faire avancer les droits. Là, ce qui est bien évidemment tragique, c'est qu'on assiste à un recul démocratique et un recul des droits individuels.
Alors, Laurence Nardon, est-ce que ce discours est un discours radical extrême à gauche, ou est-ce que beaucoup d'Américains qui sont majoritairement favorables à l'IVG peuvent entendre que la Cour suprême est allé au-delà de la volonté du peuple.
Entre 60 et 70% des Américains seraient favorables selon les sondages.
Oui, oui, le Pew Research Center dit 60% d'Américains favorables au maintien de Roe versus Wade. Alors évidemment, chez les démocrates, c'est 80% et chez les républicains, c'est, on est à 40%, donc c'est beaucoup moins.
Sur l'illégitimité dont parle Mme Warren.
Et alors, j'allais vous donner juste un autre chiffre. Vous m'invitez à le faire. 25% des Américains seulement ont confiance aujourd'hui dans la Cour suprême. C'est-à-dire que cette institution, c'est l'une des dernières à perdre sa légitimité derrière le Congrès, derrière presque aussi les médias, j'ajoute. Donc, effectivement, il y a une grande majorité d'Américains qui ne font plus tellement confiance à cette Cour parce qu'ils voient qu'elle est devenue très politisée. C'était déjà le cas dans les années 30. Pendant le New Deal,
Sous Roosevelt, quand il y a un mouvement progressiste aux États-Unis.
Exactement. Et donc... c'est assez grave, effectivement, pour l'équilibre des institutions et la confiance des citoyens dans leurs institutions aux États-Unis.
Anna Levy, ce qui s'est joué, c'est l'annonce par Donald Trump qui nommerait des juges conservateurs pour aller contre l'avortement. C'est que le crime, je mets les guillemets, politique était signé. Est-ce que c'est ça qui décrédibilise la Cour suprême aux yeux d'une partie des Américains ?
On est à la fin d'un processus qui commence d'un vice originel de la démocratie américaine. Et le vice originel, c'est que quand on décide des questions comme l'avortement, qui concernent toute la nation...
Comme le port d'armes, aussi
Le port d'armes ou le mariage homosexuel, ce sont des questions qui concernent le souverain, parce qu'ils concernent l'intégralité de la nation. Ces questions-là doivent être décidées par le souverain, c'est-à-dire par la représentation
Comme ça s'est passé en France, d'ailleurs, pour l'IVG.
Comme ça s'est passé en France pour l'IVG.
Par la Chambre des représentants et le Sénat.
Le problème, c'est qu'aux États-Unis, la polarisation est devenue telle que le Congrès n'ose même pas et n'a pas les moyens de régler des questions qui relèvent de sa compétence. Et il confie de plus en plus à la Cour suprême le soin de régler des questions qui ne relève pas forcément de l'autorité de la Cour suprême. Et la Cour suprême, en ce moment, depuis quelques années, prononce des arrêts sans même les motiver.
Et Tamara Boussac, il y a des craintes quant à d'autres droits sur lesquels pourraient revenir notamment Samuel Alito et Clarence Thomas, enfin qui l'ont déjà plus ou moins signifié, contraception, recriminalisation de l'homosexualité, mariage homosexuel, que sais-je.
Oui, absolument. Alors tous les juges ne sont pas d'accord sur la forme que ça pourrait prendre.
Mais ils sont minoritaires, ceux qui sont...
Oui, mais même par exemple, c'est surtout effectivement le juge Thomas que vous citez qui lui est vraiment, commence vraiment à citer d'autres droits qui pourraient être mis en cause avec toujours l'idée qu'à une époque, la Cour suprême a un peu outrepassé ses compétences et s'est arrogé un pouvoir de garantir certaines libertés fondamentales qui en réalité n'en sont pas et qui n'ont pas de fondement dans la Constitution.
Est-ce que Clarence Thomas pense que ce qui n'était pas mentionné au moment de la création des États-Unis n'a pas à être débattu, n'a pas à être érigé en droit fédéral?
Oui, c'est ça. Alors ça, c'est une conception très fondamentaliste de la Constitution. C'est-à-dire, on prend la Constitution en essayant de... On l'interprète en essayant de recréer ce que ces écrivains, ce que ces rédacteurs ont voulu dire à ce moment-là. Voilà. Donc effectivement,
l'avortement... c'est un fondamentaliste. C'est un taliban de la Constitution.
C'est tout à fait... C'est le mot fondamentalisme, effectivement, qui est utilisé dans ce contexte, dans cette discussion. Donc effectivement, le fait est que le mariage homosexuel, par exemple... rentre tout à fait dans cette logique. Il y a la question aussi des choses qui se sont déjà produites en réalité. Toute la question du droit de vote, de l'accès des minorités au droit de vote a commencé à détricoter depuis 2013. Et en réalité, on voit que beaucoup de minorités dans certains États ont énormément de mal à accéder au vote à cause de ça.
Alors, on va évoquer, on parle de fracture politique, mais aussi une fracture géographique qui est en cours avec un phénomène que les Américains appellent the Big Sort.
The Big Sort, oui, effectivement, c'est une forme de ségrégation volontaire et individuelle, c'est-à-dire le fait que les Américains ont de plus en plus tendance à s'établir, à déménager dans des régions qui leur conviennent, qui conviennent à leurs opinions et des lois qui leur conviennent également. Ce phénomène, il avait été étudié donc en 2008 dans ce livre Big Sort, Le Grand Tri en français, un journaliste, un sociologue, c'est un livre passionnant, controversé mais passionnant, un journaliste et un sociologue, il décrivait comment les Américains tendent à se regrouper en fonction de leur idéologie, donc sur le territoire, et comment ce processus-là crée des poches d'électeurs qui ont le même profil politique. Il y a un chiffre qui est très parlant, qui suffit à le démontrer. Entre les élections présidentielles de 2004 et celles de 2020, le nombre de comtés ayant voté à plus de 80% pour un même candidat a plus que triplé, d'ailleurs en 16 ans, en très peu de temps. Et pour donner un autre exemple concret et très récent, depuis la pandémie de Covid-19, Le Texas est devenu une sorte d'Eldorado pour les conservateurs anti-vaccins et anti-masques. Quand le gouverneur y a interdit l'obligation vaccinale, on a vu fleurir sur Facebook des groupes qui se constituent comme ça, de gens qui se considèrent comme réfugiés dans leur propre pays, des Californiens qui sont partis s'installer au Texas. Un dernier chiffre assez terrifiant, 55% des Américains interrogés dans une étude pensent qu'il est important de vivre dans un endroit où leurs voisins partagent leurs opinions politiques. Laurence Tardin, est-ce qu'on va vers une Amérique à la carte, c'est-à-dire chacun vit de son côté, dans sa bulle, et ne parle surtout pas à l'autre, ne se confronte pas à l'autre.
Oui, parce que tous les sujets de société, l'avortement et l'environnement aussi, c'est un sujet, tous ces sujets-là, ce sont des affaires Dreyfus potentielles pour les discussions de famille, pour les discussions entre voisins, etc. Et donc les gens en ont marre de ce stress.
Du
et
conflit. Ils en ont assez du conflit.
Ils en ont assez du conflit. Alors, il y a quand même deux choses que je voudrais dire. C'est que d'une part, je pense qu'il reste quand même beaucoup d'Américains qui sont des gens décents, des gens modérés, qui sont prêts à parler à plein de gens. Mais c'est vrai qu'ils ne croisent pas de gens qui pensent différemment d'eux dans la journée. Et en plus, ils ne sont pas du tout audibles dans les médias aujourd'hui. Il y a un paysage médiatique, je pense aussi aux chaînes d'infos, aux réseaux sociaux, etc., extrêmement violent.
Réac contre woke, c'est ce qu'on a tendance à montrer.
Oui, pour parler vite, c'est exactement ça. Et du coup, la vision de gens qui seraient tout simplement décents n'est plus du tout audible dans l'opinion publique.
C'est ce que voulait incarner Biden,
tout
un démocrate modéré qui avait des amis républicains. C'est fini.
C'est non, foutu. C'est pas que c'est fini, c'est que ils sont toujours là, j'en suis sûre, mais on ne les entend pas dans
ils
les
sont invisibilisés, minorés et assourdis, c'est ça. Et avec quelles conséquences?
Et la deuxième chose, c'est que sur le Texas, donc il y a ce grand tri que vous mentionniez, mais néanmoins sur le Texas, c'est l'un des États qui pourrait basculer, parce que les choses ne sont jamais figées dans le roc pour 10 000 ans. Le Texas voit justement beaucoup de Californiens arriver, qui pour des raisons fiscales, qui sont plutôt des démocrates. Et on voit aussi dans cet État arriver beaucoup de latinos.
D'entreprises dans la tech.
C'est l'un des États qui pourrait justement basculer du côté démocrate dans les années à venir. C'est ce que pensent les analystes politiques. Mmh. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le gouverneur Abbott du Texas est aussi radical en ce moment, parce qu'il a peur de voir son État lui échapper.
Mmh. René Lévy, vous évoquiez une guerre civile, mais qui n'a pas encore pris les armes, encore qu'à l'affaire du Capitole. Des États-Unis fracturés géographiquement sur une question essentielle, ça existait juste avant la guerre de sécession, c'est déjà arrivé là-bas.
Oui, mais aujourd'hui, au phénomène que vous venez de décrire, s'ajoute un accélérateur immense qui est l'existence des réseaux sociaux. Les Américains recréent entre eux des communautés imaginaires.
Des bulles,
des communautés imaginaires qui s'alimentent, qui s'informent et s'isolent d'autant plus de l'autre par ce moyen. L'idée même de discuter, c'est-à-dire le wokisme, un des problèmes du wokisme, on ne veut pas discuter. C'est-à-dire, on ne veut pas discuter.
Le wokisme, c'est le progressisme, la défense des droits des femmes, des minorités.
Il y a une sorte de complicité entre le wokisme et le trumpisme, au moins en ceci, qu'ils refusent la discussion. Ils refusent la discussion, la discussion est une sorte de menace, c'est une adversité qu'ils ne veulent pas rencontrer. Comme vous avez dit tout à l'heure, les gens veulent rencontrer des personnes qui leur ressemblent.
Vivre dans des bulles cognitives, vous voulez dire ? Et ne pas subir... Vous êtes d'accord avec cette...
Cognitive et culturelle,
ce clivage...
Oui, mais comme je le disais tout à l'heure, je suppose qu'il y a des gens qui restent normaux, avec mille guillemets, c'est-à-dire modérés,
qu'on ne voit pas.
Tamara Boussac, est-ce que nous, démocratie française, actuellement bloquée en son Parlement, sommes aussi éloignés du paysage américain que nous croyons l'être?
Je pense que les pratiques parlementaires sont quand même assez, assez différentes. Historiquement, de fait, aux États-Unis, il y avait une tradition de, on l'évoquait tout à l'heure, de compromis, de réussir à trouver des modérés dans un parti et dans l'autre. Ça devient de plus en plus, de fait, de plus en plus compliqué. Et je pense que ce qu'on vient de voir aussi avec Mike Pence est assez intéressant dans le sens où on a pu confondre, quand on parle de l'héritage du trumpisme, le fait de critiquer Donald Trump et son attitude après l'élection de 2020 et une sorte d'un aspect un peu modéré, de républicanisme modéré. On voit que Pence n'est pas du tout un modéré. Et en réalité, cet héritage extrêmement conservateur, il persiste.
Et sur le parallèle avec nous?
Moi, je pense que l'IVG en France, déjà, c'est une loi. Et en plus, on ne peut pas comparer l'influence des catholiques intégristes anti-avortement en France, qui est une influence